Monsieur Ferraud, les sciences en général et les sciences humaines et sociales également sont obsédées par la question de la rupture ou de la continuité. Quand un processus survient, le regard scientifique, c'est de se dire est-ce que c'est un processus nouveau ou est-ce que ce processus, nous pouvons l'aborder en fonction de codes antérieurs. La vague migratoire actuelle, je parle de celle qui touche l'Europe, les situations dramatiques que l'on connaît, les 30 000 morts. Est-ce que malgré tout, cette vague migratoire, ce processus d'exil de masse contemporain vers l'Europe, est-il tout simplement un chapitre de plus dans l'histoire des migrations qui accompagne l'histoire de l'Europe depuis que l'Europe existe, ou est-ce une réalité totalement inédite? Parce que si c'est une réalité inédite, elle demande une pensée nouvelle et des dispositifs nouveaux. Quelle est votre
Alors,
analyse?
je crois qu'il y a à la fois des éléments de continuité incontestables. Lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, on met en place la Convention de Genève, on le met en place sur les réfugiés, au sens le plus large possible, politique d'abord, mais ça s'est élargi ensuite, on met en place un dispositif juridique pour répondre à ce qu'on appelait les Flüchtlinge, ceux qui s'en allaient, qui s'enfuyaient. Qui est un beaucoup plus joli mot que réfugié, parce qu'il donne le mouvement dans la langue allemande de on s'enfuit. Et c'était donc les guerres et
Le fougueré de réfugueré,
réfugié est un
on l'a
peu là.
oublié, on l'a
Mais on l'a
oublié.
oublié. Dans réfugié, on voit beaucoup moins la racine que dans Flüchtling, qui est quand même un très joli mot pour désigner ce mouvement où on s'enfuit, quoi. On ne peut pas survivre là où on est. Et cette dimension reste, parce qu'il ne faut pas oublier que. Aujourd'hui, ceux qui viennent de Syrie, ceux qui viennent de la Corne de l'Afrique ou de l'Érythrée, sont des gens qui s'enfuient parce que simplement leur condition humaine n'est plus possible là où ils habitaient. Alors, ce qui est inquiétant dans cette première composante des réfugiés, des phénomènes de migration, c'est qu'on a pu croire à un moment donné que ça allait se tarir, notamment avec la fin de la chute du mur, notamment avec les pays d'Asie, d'extrême Asie, comme le Vietnam ou le Cambodge, qui s'étaient pacifiés de leurs différentes aventures ou drames ou terreurs qui s'étaient instaurées. Et puis, on a découvert que ce qui était contenu par la guerre froide dans des guerres périphériques, finalement, redouble d'intensité, mais y compris avec de nouvelles causes. C'est qu'elles ne sont plus simplement dues, ces situations vraiment horribles et terrorisantes que ces gens connaissent, elles ne sont plus simplement dues soit à des extrémismes politiques ou des guerres classiques. Elles sont aussi des guerres de territoire qui sont des guerres de survie. L'eau, l'agriculture, la famine, tout ça pousse les gens à s'enfuir. Donc cette composante existe. Et puis il y a des choses qui émergent. Et ça, c'est des choses importantes. Le réchauffement climatique sera incontestablement une cause de migration que nous n'imaginons même pas. Aujourd'hui, on dit comme ça qu'il y a. Les plus pessimistes disent 250 000 réfugiés climatiques. On sait que, comme par ailleurs, la question est certes traitée, mais pas à l'échelle où elle devrait l'être, que on sera plutôt à plus une centaine, voire 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 30 à 40 ans. Et ça va beaucoup changer. Ça va changer pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une masse considérable. Nouvelle, et d'autre part parce que les réfugiés climatiques, ça va y compris toucher des pays qui aujourd'hui ne sont pas touchés par les guerres et les famines, ça va toucher les bords de mer, ça va toucher des pays qui aujourd'hui se sentent plutôt, voilà, mais une montée des eaux de 50, 70 cm, 1 mètre, personne ne sait exactement ce que ça va recouvrir. Et donc, je dirais que nous sommes pas encore sorti du vieux schéma des migrations, même si dedans des causes environnementales, la famine est une cause environnementale, où l'eau commence à jouer un rôle, mais qui se transcrit par la guerre, mais nous aurons des réfugiés qui seront vraiment des réfugiés climatiques, et c'est lorsque cette masse sera en quelque sorte suffisante que nous serons obligés d'adapter nos instruments juridiques. Aujourd'hui, les instruments juridiques sont globalement, si on sait les utiliser, les mettre en œuvre, et si on le fait avec humanisme, même avec un humanisme radical, permettent de prendre en charge ces migrations.
Avec Yves Jadot, en ce lieu même, j'interrogeais la possibilité du concept de transition migratoire, puisque c'est un concept qui n'est plus simplement réservé à l'écologie, mais qui peut être adopté au social, etc. Mais je repose tout de même la question, est-ce que c'est vraiment une transition? Est-ce qu'il n'y a pas rupture radicale? Vous parlez des réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques ne seront pas des gens qui vont fuir un État-nation pour aller dans un autre État-nation. Ce sont des gens qui vont fuir un espace menacé pour aller dans un autre espace. D'ailleurs, aujourd'hui même, ceux qui viennent, à la différence des migrations antérieures, les Polonais, les Italiens, les migrants. Et rarement, sauf pour les Syriens, mais rarement on insiste sur le lieu d'origine. Donc il y a un phénomène d'une nouvelle figure.
Alors, tout dépend à quel niveau on se situe. S'agissant de l'opinion publique, vous avez totalement raison. S'agissant de ceux qui se préoccupent au quotidien des migrants, que ce soit les agents de l'OFPRA ou les juges de la Cour nationale de droit d'asile ou les associations humanitaires ou... Bien évidemment, ils sont identifiés parce que, malgré tout, nous avons fait évoluer dans le cadre du CESEDA, le code de l'étranger, etc., ce qu'on appelle le CESEDA, nous avons fait évoluer et il y a ce qu'on appelle maintenant la protection subsidiaire. Et un des cas de protection subsidiaire, je reviens sur votre question d'espace, est de dire qu'on accorde cette protection, qui est sans doute normalement temporaire, qui doit être révisée tous les ans, deux ans, enfin, qui ne donne pas lieu à une révision simplement tous les 10 ans, on dirait, parce que ces gens viennent de zones de conflit de haute intensité. Parce que quand vous parlez d'État-nation, c'est quand même un concept qui, dans une large part de l'Afrique, ne recoupe pas les réalités sociologiques des habitants de certains ont le malheur d'être dans des zones minières, donc ils souffrent plus que d'autres, là où les gens viennent s'accaparer des richesses. Et donc, on est déjà sur des notions d'espace. Quand on dit on vient d'une zone de conflit de haute intensité, eh bien, ça peut être l'état d'une île bleue, comme ça peut être juste de l'autre côté de la frontière. Ça peut être le sud Kivu, le nord Kivu, mais aussi juste de l'autre côté de la frontière. C'est bien là, ceux qui examinent ces demandes, son travail déjà à travers cette protection subsidiaire sur la notion d'espace et de territoire, de ce qui se passe dans ce territoire. Et non pas, ça peut être y compris une violence intra-étatique qui justifie, parce qu'aucune autorité ne peut protéger, qui justifie le fait qu'on accorde une protection à un migrant. J'ai cité les zones, le sud, le nord Kivu, la région du Nil Bleu, le Soudan, partie de l'Érythrée aussi.
Et là, est-ce que ce n'est pas un changement de paradigme précisément? Est-ce qu'il est possible d'asseoir une pensée politique en dehors justement d'une pensée territoriale au sens des relations internationales?
Il faut s'y efforcer.
J'étais frappé de voir au dernier débat présidentiel, quand les 11 étaient là, ceux qui défendaient l'accueil inconditionnel des migrants, c'était les trotskistes. C'est-à-dire comme une espèce de fidélité à l'internationalisme du père fondateur. Est-ce que là, il y a effectivement... Est-ce que nous ne sommes pas en demeure, devant cette question migratoire inédite, d'inventer un nouveau dispositif de pensée politique?
Oui, mais je crois que dans le niveau dispositif de pensée politique qu'il faut inventer, à la fois les États-nations vont continuer à exister, ce n'est pas la question, mais la question de l'asile, de l'accueil du réfugié, de l'accueil du migrant dans ses différentes composantes et ses différentes formes, c'est en quelque sorte la noblesse de la politique. Parce que on n'est plus dans l'État-nation, on est dans l'humanisme radical. On est l'autre, c'est moi. Et moi, je peux être l'autre. Et ce qu'on retrouve dans les discours de Jean-Luc Mélenchon et dans sa manière, par exemple, d'aborder ces questions, est, de mon point de vue, totalement indissociable de sa propre expérience, de quelqu'un qui a dû quitter le Maghreb, né à Tanger, passé par l'Algérie, pour arriver en France, et qui, du coup... Quand il dit que l'exil est toujours une tristesse, un arrachement, un drame, il sait de quoi il parle. Et il ne faisait pas partie d'une famille de colons riches, enfin, c'était pas ça, c'était des gens normaux, sa mère était institutrice, et voilà. Donc, il faut toujours avoir Il faut toujours faire appel quand on parle de ces questions-là. À la fois, il y a le cadre juridique qui est à la fois international, qui est à la fois de temps en temps européen, qui est à la fois national, qui est appliqué par des administrations, des associations s'en préoccupent, des magistrats administratifs le règlent, j'ai envie de dire. Mais tout ça est forcément, on va dire, si on veut le penser, est forcément lié à une philosophie différente. Parce que sinon, on est dans... sinon, on cède à la gestion du flux. Et la gestion du flux ne peut pas être une réponse durable, en fait. Parce que...
Mais cette pensée politique différente va demander un nouveau dispositif juridique. Vous qui êtes juriste, est-ce que vous estimez que l'appareillage juridique actuel est encore efficace ?
D'abord, comme juriste, je sais que les appareillages juridiques sont des choses qui peuvent bouger en permanence. Hein, et hélas, dans notre pays, souvent trop. Les magistrats administratifs, des tribunaux administratifs, qui au cours des 20 dernières années ont eu, je crois, un peu plus de 10 lois sur le droit des étrangers, savent que c'est juste compliqué de se tenir au courant. Comme par ailleurs, ils font aussi d'autres matières, c'est vraiment un investissement permanent. Ouais, ouais. Et donc, évidemment, l'appareillage juridique changera. La seule question, c'est de se dire, face à des causes migratoires nouvelles, ce dont on parlait au départ, il va falloir inventer des cas juridiques de protection qui seront nouveaux. Aujourd'hui, le réfugié climatique n'existe pas dans le droit. Voilà. Demain, on peut admettre, et il faudra sans doute admettre, qu'on ouvre un cas juridique de protection subsidiaire qui sera celui dont les terres auront été submergées par la mer, où le climat aura tellement dérapé que il aura dû partir chasser. Pour l'instant, on n'a pas à le faire puisque les dérèglements climatiques que nous connaissons déjà et dont nous avons des prémices maintenant très forts dégénèrent en guerre ou en guerre civile. Et donc, ceux qui arrivent peuvent se prévaloir des protections qui existent. La protection subsidiaire dite petit b par rapport à la petite a, c'est très technique, mais voilà, c'est des cas de protection subsidiaire qui sont ouverts. Mais si un jour on a une masse de réfugiés qui vient à la porte, qui dit nous, chez nous, il n'y a pas de guerre, mais il n'y a plus de terre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Le droit, vous savez, le droit, il a beaucoup de défauts, mais il a quand même à un moment donné une forme de plasticité, il s'adapte à la réalité. Et fondamentalement, tant qu'il y aura le souvenir de pourquoi on a initié le passeport Nansen, plus la Convention de Genève, c'est-à-dire qui est vraiment un humanisme radical, parce que franchement, rien d'autre ne le justifie. Après tout, des tas de gens de bonne foi disent « mais parmi les Syriens, il faudrait trier, les femmes, les enfants, les vieillards, on les prend, et les jeunes, on les forme militairement, on leur colle un uniforme, on les renvoie dans leur pays ». On sait bien que ça ne répond pas à la question. La question est bien celle de l'accueil de l'autre, c'est-à-dire de l'acceptation de ma propre condition humaine.
Accueil de l'autre. Pourtant, il y a une séquentialité dans le discours de Jean-Luc Mélenchon qui peut étonner par rapport à cet accueil de l'autre et cette priorité sur l'accueil de l'autre. La séquence, c'est agir en amont des migrations et accueillir dignement les migrants. Pourquoi cet ordre d'action ?
Parce que il ne nous a pas échappé que Jean-Luc Mélenchon était candidat à l'élection présidentielle. Donc pour diriger le pays. Quand on n'est pas dans cette position-là, qu'on ne se prépare pas à être dans la position de celui qui va impulser une politique, la faire valider par le Parlement, tout ce qu'on veut, mais qui va être en charge de la responsabilité du pays, on se dit, après tout, oui, l'accueil de l'autre est ce qui compte le plus. Mais quand on est en charge du pays, ce qui intéresse ceux qui sont prêts à voter pour vous, c'est comment vous voyez le système global, quels moyens vous allez vous donner d'agir sur la situation à la fois du pays et du monde. Parce que, y compris, c'est un pays qui a un siège au Conseil de sécurité, c'est un pays qui a une histoire coloniale et postcoloniale, c'est un pays qui a une place dans le monde, c'est un pays dont la voix porte. On n'est pas tout à fait... je vais être méprisant avec personne. Généralement, je dis le Liechtenstein, mais faut pas dire... C'est pas bien de dire ça. C'est un pays dont la voix porte. Donc, quand il dit agir sur les causes des migrations, Il dit en même temps, il veut dire deux choses. Il veut dire la transition écologique, celle qui se fait dans notre pays, doit se faire ailleurs, renforcer ce qui a été fait à la COP21 et le développer. Première chose. Deuxième chose, arrêter les traités inégaux que la France a pu signer avec un certain nombre de pays en matière commerciale, qui fait que, globalement, au Niger, on est responsable quand même de beaucoup de choses, parce que c'est nous qui allons chercher l'uranium, qu'on l'achète à bas coût, oui, et qu'on ne renvoie pas. C'est donc, je veux dire, et tout ça n'est pas du ressort effectivement de simplement de l'humanisme radical. Tout ça est du ressort de quelle politique internationale. Et un président de la République nécessairement doit parler de ça. Par ailleurs, ça c'est la démarche peut-être propre à Jean-Luc Mélenchon, j'ai pour habitude de dire que ce qui est fabuleux dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon, en dehors de temps en temps de l'émotion et de ce qu'il est capable de transmettre en parlant, c'est qu'a priori vous en sortez plus intelligent. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye de faire penser. Et quand on décline les 40, je les ai comptés ce matin, les 41 livrets que la France Insoumise a sortis au-delà du programme, qui était résumé dans le livre « L'avenir en commun », je crois, c'est cette volonté de faire prendre conscience des problématiques pour que le citoyen soit éclairé. Et c'est vrai qu'un chef d'État, il agit aussi sur les causes. C'est premier pour lui, dans sa fonction.
Oui, oui, oui.
Après, pour vous et moi, en tant que qu'être humain, évidemment, on se dit, mais du coup, est-ce que ça veut dire que... est-ce qu'il le met devant parce qu'il veut pouvoir dire qu'il y a un oui, mais sur le second terme, qui sont des tas de procès d'intention qui ont été faits à Jean-Luc Mélenchon parce que y compris il a toujours dénoncé les mécanismes qui en Europe font baisser le coût du travail, et on en a déduit qu'il aimait pas le plombier polonais ou le travailleur détaché. Bien sûr qu'il l'aime, sauf qu'il dit il est utilisé dans un système économique pour faire baisser les protections sociales et les protections du droit du travail en France et pour faire baisser les salaires. Donc je ne suis pas pour ça. Vous savez, la politique est un art où les choses s'enchevêtrent et où on a vite fait de caricaturer à un moment donné des positions qui sont forcément à la fois complexes dans leur cheminement et qui sont concentrées dans leur expression, parce que le monde moderne veut ça. Il est rare d'avoir des discours en continu pendant 2 heures. La campagne électorale l'a permis, hein. Mais sinon, entre-temps, entre ces deux périodes d'élections présidentielles en France, en général, le format, c'est 1 minute 30 à 2 minutes par question qu'on vous pose.
Ce qui est incontestable, c'est que il y a dans la posture de Jean-Luc Mélenchon quelque chose qui échappe à justement la volonté d'imposer un programme politique gestionnaire efficace. Vient de paraître un ouvrage qui s'appelle « De la vertu ». Ça aurait pu paraître au XVIIIe siècle, c'est un titre qui sonne XVIIIe siècle, non, ça vient de paraître. Facture philosophique très classique, un axiome, la vertu, nécessaire, et puis 3 principes qui viennent décliner cet axiome, liberté, égalité, fraternité. D'après vous, la question migratoire dépend de duquel de ces 3 principes ?
Alors d'abord, un mot sur la vertu. Jean-Luc Mélenchon a un long parcours politique. Emmanuel Macron vient de le rappeler qu'il était déjà sénateur socialiste quand il était au collège, ce qui prouve qu'Emmanuel Macron est fâché avec les chiffres, parce que j'ai refait le compte, il avait 9 ans, même pas, ça fait 30 ans que Jean-Luc Mélenchon, oui il avait 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans quand Jean-Luc Mélenchon est devenu sénateur, donc à mon avis, même brillant, il était encore à l'école élémentaire, primaire on va dire, pas encore au collège. Mais ça c'est juste parce que je ne sais pas pourquoi les inspecteurs des finances sont fâchés avec les chiffres. Après la vertu, pourquoi ? Parce que c'est une question essentielle, la qualité des hommes. Et que dans son parcours, Jean-Luc Mélenchon, et moi je suis un peu plus jeune que lui, mais j'ai un peu de bouteille aussi, comme mes cheveux le prouvent. Je vais avoir 59 ans dans quelques semaines. Hein. Donc on a vu des êtres humains, des dirigeants politiques, des cadres politiques, se gâter au sens où un fruit se gâte. C'est-à-dire perdre à la fois leur idéal et perdre à la fois la vertu qui allait avec. L'idéal, voilà, il faut le poursuivre et il ne faut pas en manquer. Mais la condition essentielle d'une politique sincère, c'est quand même la vertu. Après, sur les migrants, je crois qu'ils se rattachent à 2 choses qui sont pour moi indissociables. et même d'un certain point de vue aux trois. Alors, je vais les classer pour répondre à votre question. D'abord, je l'ai dit, moi, ne prétendant pas devenir président de la République, l'accueil est premier. Donc ça, c'est la fraternité et l'égalité. C'est parce que l'autre est moi et que je suis l'autre que, voilà, il y a cette nécessité d'accueillir. Alors, on peut appeler ça fraternité, mais c'est aussi l'égalité entre les hommes qui s'exprime à travers ça. Et évidemment, on aimerait bien être traité, si jamais nous ou nos enfants devons partir à l'étranger un jour, à égalité avec les gens dans le pays dans lequel on choisira d'aller. Vous savez, on en a accueilli des vagues en France, y compris des vagues qui, alors, ne posaient pas problème à l'époque, quand on a accueilli toute l'Amérique latine au moment des dictatures dans les années 70, etc. C'est une expérience aussi qui a marqué Jean-Luc Mélenchon à Massy. Il y en a eu beaucoup, je ne sais pas pourquoi à Massy, mais il y en avait beaucoup là où il était investi, et pas encore maire adjoint, il est devenu assez vite, je crois. Et voilà, donc c'est l'égalité. Je crois que. Mais d'ailleurs, je crois que la fraternité, c'est un sentiment. C'est peut-être ce qui permet d'ailleurs de lier la liberté et l'égalité. Mais les migrants, c'est d'abord, je pense, l'égalité humaine, pour moi. Cette égalité intangible, intrinsèque. Voilà, et que, y compris les avancées de la science, renforcent. Autrefois, au 19e siècle, la question des races, aujourd'hui, avec la génétique, avec les recherches qui sont faites là-dessus, on sait non seulement qu'il y a une égalité humaine, mais que, d'un strict point de vue génétique, on est aussi né d'un croisement entre Néandertal et Sapiens. Et qu'il y a eu ces croisements-là. Chose qu'on pensait encore impossible il y a 20 ans. On disait, c'est deux races, c'est comme le mulet, c'est stérile, parce que c'est le mélange du cheval et de l'âne. Je ne sais pas qui était l'âne et qui était le cheval, mais bon. Voilà, on sait tout ça maintenant. Donc, c'est moi. Le migrant que j'accueille, c'est moi. Donc, je le traite comme moi, à égalité. Après, les conditions de l'accueil, l'égalité, c'est plus un concept qui renvoie au droit, quand même. Après, il y a tout, la manière dans laquelle, tout ça, c'est la fraternité, sans laquelle l'égalité peut être très froide, comme un jugement, j'ai envie de dire. Et puis après, il est clair aussi que beaucoup des migrants, c'est la troisième valeur, cherchent chez nous la liberté. Que les conditions d'existence, leurs conditions d'existence dans leur pays d'origine ne rend plus possible. Voilà comment je les classerais, en fait. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question.
Tout à fait.
Mais je les classerais comme ça, et je suis radicalement sur cette question d'égalité entre les hommes et les femmes, et entre tous les hommes et toutes les femmes. Je pense que si l'humanité oublie ça, et si elle commence à les trier en fonction de la culture, de la civilisation, du niveau d'études... C'est fini.
Merci.